Je réponds d'abord aux questions posées, puis nous continuerons. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que le lien privilégié d'éveil à la foi est la famille, le lieu privilégié. C'est vrai. Et je crois que c'est très vrai, voulu par la sagesse de Dieu. En catéchèse, doit-on ne s'intéresser qu'à ce que l'enfant peut recevoir? Ou ne doit-on pas plutôt essayer de toucher chaque famille? C'est très vrai si on a le temps, si on le peut. Par l'enfant, toucher les familles. Et essayer dans la mesure où on le peut, avec discrétion. Parce que c'est pas la même chose l'enfant et la famille. Mais si on le peut, on doit le faire. Parce que c'est sûrement anormal, vous voyez, je dis bien anormal, que l'enfant reçoive uniquement l'éveil à la foi par le catéchisme, par ceux et celles qui font la catéchèse. Normalement, selon la volonté de Dieu, ce sont les parents. Mais il y aura toujours, eh bien il faut le dire, il y a toujours des suppléances. C'est ça qui est très étonnant. Il faut croire à ces suppléances. Quand une famille n'est absolument pas chrétienne et que l'enfant vient quand même au catéchisme, comprenons qu'on a une responsabilité encore beaucoup plus grande. On doit être celle qui éveille à la foi et celle qui prend un peu en charge l'enfant, comme une espèce de parrainage. Parce que souvent, le parrain et la marraine sont uniquement là pour donner des cadeaux et pas du tout pour réveiller la foi. Donc à ce moment-là, il faut comprendre que Dieu nous demande d'être un peu ceux qui supplaient. Et du fait même que la providence nous permet de les enseigner et de les approcher, ça nous donne la grâce d'être auprès d'eux. Oui, ça c'est tout à fait, je le dis, mais c'est entre parenthèses une question matérielle. Peut-être quelques personnes nécessiteraient un tout petit service, pourraient donc rendre un... par ceux qui ont une voiture et un peu de place. C'est évident ça. Je demande ça à l'organisation d'organiser ça. Puisque le propre de l'organisation c'est d'organiser, et sûrement pour le retour c'est très bon. C'est nécessaire, parce qu'en auto, si on peut. Pour ma part, j'apprécierais que quelqu'un puisse me déposer à la gare de Poissy, les autobus de banlieue étant très peu fréquents le dimanche. Très bien, je laisse le papier ici. Et si quelqu'un le peut, il le prendra et il retrouvera l'écriture. Comment voyez-vous la place des familles et de l'éducation des enfants dans la communauté, dans les communautés nouvelles? Oh là là, on touche un sujet très délicat. J'oserais pas en parler en public. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très délicat. Et je me pose la question comme vous. Vous voyez ce qu'on dit, dans les communautés nouvelles, on intègre les foyers dans un mouvement chrétien, qu'il s'agisse des charismatiques, qu'il s'agisse du lion de Juda, qu'il s'agisse de toutes ces choses-là. La vocation des parents n'est pas la vocation des enfants, voilà ce que je peux dire en principe. Le foyer reçoit la grâce du sacrement pour le foyer et l'éducation des enfants. Quand les enfants sont tout petits, c'est très bien. Mais quand les enfants grandissent, je crois que c'est là où le problème se pose, où les parents ne peuvent pas décider quelque chose sans que leurs enfants soient d'accord. Il me semble. Mais voyez comme c'est difficile. Parce que je crois qu'il faut toujours faire attention et puis il y a des vocations diverses. J'aime beaucoup ces communautés, j'avoue. Et lorsque je suis en face d'un cas comme ça, je suis toujours extrêmement discret. Parce que personnellement, ça c'est ma grâce, c'est pas, je ne veux pas juger les autres. Personnellement, je crois que la vocation religieuse et la vocation du mariage sont des vocations complémentaires qui sont une en Marie. Et seule Marie peut faire l'unité. Il faudrait être immaculé pour faire l'unité. Je n'aime pas beaucoup le mariage qui devient, voyez, une communauté monastique. Et je n'aime pas non plus les communautés monastiques qui deviennent des mariages. Je crois qu'il y a des lois de nature fondamentales. Et le mariage assume quelque chose qui est enraciné dans une loi de nature, une institution naturelle. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés comme un couple. Et avec la nouvelle alliance, Dieu réclame de certains un don total au point de vue de la virginité, du cœur et de la chasteté. Il réclame ça. Et ceux-là doivent devenir des paratonnerres et des aides pour les familles. Non, pas du tout en se considérant comme supérieurs, pas du tout. Plus on avance, plus on voit que la sainteté, elle dépend du Saint-Esprit, et qu'il y a des saints dans le mariage. Et le Saint-Père est très sensible à ça. Il y a des saints dans le mariage aujourd'hui. Et il y a des jeunes foyers qui font quelquefois rougir de jeunes religieux. Parce que la vie religieuse, vous voyez, c'est très très beau. Moi, je trouve ça admirable. Je n'ai jamais regretté d'être religieux. Et j'ai quand même plus de 50 ans derrière mon dos. Je n'ai jamais regretté un seul jour. Grâce à Dieu. Mais je vois que pour certains, la vie religieuse peut être aussi un lieu où, de fait, ils ne prennent pas assez de responsabilités. C'est parce que c'est facile, vous comprenez, hein, tout le matériel, hein, sont les autres qui le supportent. Nous avons dans la communauté Saint-Jean ce que nous appelons nos Saint-Joseph. Parce qu'on a lancé quelque chose d'assez nouveau dans l'Église. Dans le sens où le Concile Vatican II nous demande. Nous avons nos Saint-Joseph, et nos Saint-Joseph, c'est eux qui se chargent de tout le temporel. Ils s'en chargent, je vous affirme. Nous ne prenons aucune décision dans ce domaine-là, parce qu'un religieux ne sait pas ce que c'est que l'argent, par définition, puisqu'il ne l'a pas gagné. Donc il ne sait pas ce que c'est. Et quand les religieux commencent à toucher l'argent, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Vous voyez pourquoi nos jeunes, les jeunes de Saint-Jean ont été scandalisés quand on revenait de Fribourg, qu'on cherchait un local. On a commencé la communauté Saint-Jean sans un sou. Hein. C'est vrai, j'étais religieux donc j'avais rien. Je ne pouvais pas demander aux Dominicains d'aider financièrement, vous comprenez bien. Ils respectaient, c'était déjà bien. Ils aimaient dans la mesure où ils m'aimaient. Mais c'était très bien, je ne pouvais pas demander plus. Et ceux qui ont commencé, ils étaient des jeunes, donc ils n'avaient rien. C'était des étudiants. Premier geste qu'ils ont fait à Fribourg avant d'entrer, c'était de mettre tout en commun. Donc par rapport à ceux qui avaient un peu plus, ceux qui avaient un peu moins. Et puis ça a continué. De sorte qu'on vit vraiment d'aumône, c'est vrai, absolument, intégralement. Mais quand on est revenu en France, on cherchait une maison. Alors on a frappé à certaines portes religieuses. On savait très bien que les maisons religieuses n'étaient plus habitées. On le savait. Il n'y avait plus que deux vieux pères dedans. Ou trois vieux pères. Ou quatre vieux pères. Alors on a dit, cette maison, elle ne vous appartient pas, puisque c'est un bien d'église. Alors vous auriez vu la tête des procureurs. Elle nous appartient. On veut bien vous la vendre. On a dit, mais quoi, elle ne vous appartient pas, c'est un bien d'église. Puisque vous êtes religieux. Ce sont des dons. Ce sont des bienfaiteurs du siècle dernier. Mais ils sont toujours des bienfaiteurs. Ah non, ça nous appartient. On ne peut que la vendre. On a dit, si on peut que la vendre, vendez-la aux pompiers. Et c'est ce qui s'est passé. C'est les gardes nationales qui l'ont acheté, et non pas nous. Parce qu'on n'avait pas le sou. Alors ça, ça a scandalisé les jeunes. Je comprends. Et on a réfléchi là-dessus. On a dit, voyez, chaque religieux est pauvre et la communauté est riche. C'est terrible, ça. On ne peut pas cohabiter comme ça. Donc, il faudra que la communauté soit pauvre. Comment faire que la communauté soit pauvre? Parce qu'il faut que la communauté soit pauvre, il faut qu'on vive comme des pauvres. Des pauvres, ils ne décident pas eux-mêmes. Alors, nous avons inventé nos Saint-Joseph, des amis, des parents de frères, et nos Saint-Joseph gèrent tout. Et nous ne pouvons pas prendre de décisions importantes sans que ce soit eux. Et ils disent de temps en temps, c'est pas prudent. Non, il ne faut pas faire ça. Et si vous avez reçu ces biens, il y a peut-être les missions avant. Il y en a peut-être d'autres. Remarquez que tout de suite, on a eu des missions. Et les missions, vous savez bien, hein, comme me disait quelqu'un qui est parti en Afrique, c'est pas la quête du dimanche qui va nous faire vivre. Hein. Et la quête du dimanche, ça permet même pas de vivre une journée. Alors il faut inventer quelque chose. Il faut inventer quelque chose pour ne pas être un poids pour ces pauvres chrétiens qui n'ont rien. Et quelquefois sont plus pauvres que les religieux. C'est bien évident. Ils sont même souvent très plus pauvres que les religieux. Donc il faut inventer quelque chose. Alors on essaie de trouver. Avant, les missionnaires avaient des fermes. Ils avaient des bâtiments, ils venaient. Mais alors c'est trop colonial, ça. Il faut que ce soit un bien qui puisse permettre aux ceux qui sont là-bas de vivre. Et que ce soit eux qui gèrent. Et ça, c'est des laïcs qui peuvent faire ça. C'est pas des religieux. Je pourrais vous donner comme ça des quantités d'exemples. Je crois que c'est très bien, ça. Du reste, on se demandait si Rome allait accepter, parce qu'on nous avait donné le conseil, surtout dans votre conseil religieux, n'ayez pas de laïcs. Et nous avons fait l'inverse, on a que des laïcs. Et il y a le prieur général qui fait partie, alors évidemment, il a un droit de veto, c'est normal. Parce que si c'est vraiment trop contraire au bien de la communauté, il puisse dire non. Mais il n'a pas un droit de décision. Et ça, je trouve ça très bien. On a eu la réunion l'autre jour, c'était très beau, parce que ça commence un tout petit peu à s'étendre. Alors on voyait tous nos Saint-Joseph qui étaient là. On faisait une petite récollection. Et puis il y avait les maris des Saint-Joseph, c'est évident. C'est, ou les femmes, vous voyez, qui étaient les maris. Entre guillemets, maris, eux. Et qui étaient là pour essayer de former une famille qui fait que la vie religieuse s'étend. Mais ce n'est pas les laïcs qui deviennent religieux, et ce n'est pas les religieux qui deviennent laïcs, mais c'est les religieux et les laïcs qui doivent s'entraider. Parce que les difficultés aujourd'hui ne sont pas commodes de vivre chrétiennement. Et alors on doit pouvoir s'aider de cette manière-là. Et je crois ça très important. Et on revient dans ce qui devait exister au point de départ de l'Église primitive. Des petits îlots de vie chrétienne, alors qui font que, voyez, on vit comme une cité chrétienne. Et c'est vrai, c'est une cité ambulante aujourd'hui, parce que ce n'est pas nécessairement une cité matérielle, mais c'est une cité ambulante. Et je crois que ça, très, très, très vrai, c'est qu'on doit garder un esprit de pauvreté à tout point de vue. Communautairement et personnellement. De sorte que, voyez, cette question posée, moi je dirais que seul un aspect personnel et particulier peut donner un avis prudentiel. On ne peut pas poser un problème général là-dessus. C'est trop particulier. Vous nous avez plusieurs fois parler des théologies athées, de façon bien sûr négative. Y aurait-il des théologiens qui seraient non athées? Ce que j'espère. Donc y aurait-il par des théologiens, c'était des théologies qui seraient non athées et de plus positives? Bien oui, hélas. L'idéologie positive athée, ça existe. Ça s'infiltre parce que ça n'a pas d'odeur politique. J'ai lu, il y a déjà quelques années, je crois qu'aujourd'hui ça ne paraîtrait plus, quoi, qu'on ne sait pas. J'ai lu dans une semaine religieuse, je ne dis pas où, un article fait par un prêtre qui disait, c'est curieux, au siècle dernier, tous les grands génies sont nés en dehors de l'Église. Ces génies, c'était Hegel, Marx, Freud, Nietzsche, bon, vous voyez tous. Ouais. C'est curieux que tous ces génies sont nés en dehors de l'Église. Il faut qu'après Vatican II, tous ces génies soient réintégrés dans l'Église. Donc ils plaidaient pour le baptême général de Freud, Nietzsche, Hegel, Marx. Dans quelle mesure peut-on les baptiser? Ils sont morts, mais ils ont des disciples. On ne peut baptiser que quelqu'un qui est consentant. Je ne crois pas qu'un marxiste militant soit consentant d'être baptisé. Mais les idéologies, on les baptise. Vous voyez? C'est ça qui est très curieux. Alors, le positivisme, vous savez bien ce que c'est que le positivisme, c'est considérer que la seule connaissance vraie, c'est la connaissance scientifique. Mono, représenté très typiquement un positiviste, qui le disait du reste ouvertement. Et Mono a dit, dans les rencontres internationales à Genève, j'étais à Fribourg à cette époque-là, et donc j'en recevais les échos, qu'il faudrait que l'éthique, la morale, se modifie en fonction des progrès de la science. Ne voyant pas que l'éthique repose sur une âme immortelle, créée par Dieu, capable d'aimer. Et ce n'est pas la science qui me dira ce qu'est Dieu. Et ce n'est pas la science qui me dira ce que c'est que l'esprit et l'âme immortelle. De sorte qu'il faut comprendre que la science a son secteur, mais que la morale repose sur le mystère de la personne humaine. Et la personne humaine est au-delà de tout ce que les sciences peuvent dire. Puisque c'est l'âme immortelle qui fait que nous avons une personne humaine. Alors le positivisme, c'est évident, il n'a pas d'odeur. Le marxisme, il a une odeur, hein, puisqu'il est politique, alors il a des frontières. Tandis que le positivisme n'a pas de frontières. C'est ce qui unit l'Est et l'Ouest. Lénine avait déclaré que le marxisme doit se modifier en fonction des progrès de la science. Et on peut dire que le positivisme, ben, on sait très bien, il règne très fort dans la science des biologistes et beaucoup de savants, et surtout des biologistes. Le positivisme, c'est de considérer que la science comme un idole. Considérer que la science, c'est ce qu'il y a de plus, et qu'il n'y a rien au-dessus. Et donc on soumet même la foi à la science. Le positivisme prend des couleurs différentes du reste. Il y a le premier positivisme d'un Auguste Comte. Auguste Comte, alors c'est très net, hein. Le positivisme d'Auguste Comte, seule la science nous dit le comment et le pourquoi. C'est la philosophie, c'est la métaphysique, c'est la théologie. Il faut que ce soit rejeté. Or, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, beaucoup de théologiens sont positivistes. Si je vous donnais quelques exemples, vous en frémiriez. Même à Fribourg, où c'était réputé pour être quand même quelque chose d'assez sérieux, le positivisme pénètre dans la théologie. Je vous donne un petit exemple, hein, pour que vous compreniez. Il y a eu un moment, un certain drame à Fribourg. je n'explique pas, mais c'était un drame d'une position d'un théologien de théologie morale qui avançait des idées très avancées. Rome a demandé qu'il soit rayé. Et comme Fribourg est université nationale, cantonale donc nationale, on considère que le professeur ne peut pas être rayé par l'Église. Bien que dans la faculté de théologie, le grand chancelier, ce soit le maître général des dominicains. Et que pour enseigner la théologie, il faut un mandat d'Église. Et que le canton de Fribourg le reconnaît. Mais à ce moment-là, il y a eu une grosse bagarre effrayante. Et parmi ces élèves, il y avait un étudiant qui faisait une thèse sur l'homosexualité selon l'écriture, en théologie. Mais textuellement, je vous le dis. Alors, cette thèse consistait à dire que aucun texte de l'écriture ne condamnait l'homosexualité. Donc c'était une analyse positiviste de tous les textes de l'écriture pour montrer. Donc il n'y a pas de lieu de la condamner. Alors, quand la thèse, qui avait deux censeurs, donc deux théologiens qui la soutenaient, quand la thèse est parue en faculté, les théologiens ont dit, mais quand même, une thèse de théologie dépend de l'enseignement actuel de l'Église. On n'est pas du tout. Une thèse de théologie, c'est comme une thèse de n'importe quelle science. Si c'est conforme à la méthode, c'est bon. C'est ça le positivisme. C'est qu'à la place de dire la théologie dépend de la foi, on dit la théologie c'est comme toutes les autres sciences. La théologie n'est pas une science comme les autres sciences. Saint Thomas disait c'est une science subalternée à la connaissance des saints. C'est-à-dire c'est une science qui présuppose la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas être théologien. Donc c'est pour vous montrer, eh bien, ça c'est un cas extrême, mais on en verrait des quantités d'autres cas. Je le prends exprès parce que c'est significatif, ça. On comprend tout de suite. On considère que s'il y a une méthode scientifique, méthode dite scientifique, c'est-à-dire historique, on respecte les textes, forcément on les interprète. Dans quelle lumière? Toute la question est là. Alors le positivisme, vous voyez, c'est considérer que la connaissance scientifique est au-dessus de tout. Eh bien le positivisme pénètre dans la théologie. L'idéologie marxiste a pénétré dans la théologie. C'est bien évident. Et la méthode de la dialectique marxiste, historique, a pénétré. Chez des théologiens. J'ai dit dans l'Église, c'est pas tout à fait juste, il faut dire chez certains théologiens de l'Église. C'est juste de dire ça. Mais c'est vrai que ça a pénétré, parce que ça a pénétré dans notre culture d'aujourd'hui. Le freudisme a pénétré chez certains théologiens qui regardent la morale dans la lumière de Freud. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de morale. Cette fameuse thèse, hein, d'Hénard, la morale sans péché, qui est apparue il y a quelques années. C'est-à-dire, au fond, la psychologie sans péché. Alors, il faut reconnaître ça. Et ça fait partie, je crois, de ce climat particulier dans lequel on est. C'est que c'est particulièrement difficile aujourd'hui pour un fidèle, pour quelqu'un qui veut être fidèle au Christ, de voir où est la vérité. Parce que vous interrogez tel prêtre, il dira blanc. Vous interrogez tel autre, il dira rouge. Vous interrogez le troisième, il dira noir. Alors le pauvre fidèle qui est là-dedans, hein, lequel est dans la lumière du Saint-Esprit? Je crois qu'en tant que catholique, nous avons toujours un critère, la fidélité au pape et à Rome. C'est pour ça que Vatican I a existé et a proclamé l'infaillibilité du Saint-Père. En matière de foi et de morale. Faut pas l'oublier. Pas en matière politique. le Saint-Siège peut avoir des alliances politiques qu'on est plus ou moins d'accord, mais ça passe autre chose. Le pape est père de tous, même d'un marxiste. Il est pape de tous, même d'un voleur et d'un brigand. Il est doublement pape, doublement père d'un brigand. Ça c'est sûr, parce qu'il voit la misère. Mais en matière de foi et de morale, l'Église, le pape, a autorité. Et on ne peut pas dire que le pape est hérétique, hein. C'est une erreur de dire ça. C'est une question qui a été discutée au point de vue théologique au XVIe siècle, c'est pas actuel, vous voyez. Et on montre que c'est impossible que le pape est hérétique parce que le Christ a prié spécialement pour lui. Il y a une grâce. On est élu pape directement par l'Esprit Saint. Tu restes très beau, on a dit ça, il y a toujours des fuites. Hein. On a dit que le dernier pape actuel, d'habitude, paraît-il, hein, moi je n'ai pas l'habitude du conclave, hein, mais je ne peux pas être une petite souris qui pénètre dans le conclave, mais paraît-il, c'est un cardinal qui me l'a dit, quand quelqu'un est élu pape, ben, il est élu, on lui demande s'il accepte. Alors paraît-il qu'habituellement, il y a une formule conventionnelle, vous voyez, il remercie de la confiance qu'on lui fait. Très bien. Là, le Saint-Père, étant élu pape, s'est plongé dans le silence, en prière. Il y a eu quelques minutes de silence. Et puis, il s'est levé. Il a dit, puisque notre Seigneur me demande d'être le successeur de Pierre, je ne peux que dire oui. Il n'a pas remercié de la confiance. Je trouve ça très beau. Parce que c'est vrai, c'est ça, c'est puisque Jésus me le demande. Dieu est la miséricorde infinie. Alors pourquoi les limbes? Oh, je ne vais pas discuter sur les limbes. Jusqu'à quel âge un enfant va-t-il aux limbes? Où sont tous les enfants avant la naissance du Christ? Je n'y ai pas encore été. Alors je ne peux rien vous dire. Je n'ai pas l'expérience des limbes, je ne sais pas. L'historique des limbes, oh oui. Je le fais régulièrement et je l'oublie régulièrement. Parce que ça prouve que ça n'a pas beaucoup d'importance. Les limbes, on voit très bien, c'est peut-être une petite construction théologique assez belle. J'ai dit assez belle. Et un peu néo-platonicien, pour que tous les degrés y soient. Je ne sais pas du tout. J'avoue que je ne m'en préoccupe pas. Je comprends qu'une mère de famille peut s'en préoccuper. Mais alors, il y a quelque chose de beaucoup plus fort. C'est le désir du baptême de la mère. Et de la mère des mères, c'est-à-dire Marie. Si Marie est reine, ça prouve qu'elle a quand même une autorité royale. Et je crois qu'elle est la mère des mères. Et elle sait que les petits-enfants qui n'ont pas pu demander le baptême, c'était dans l'impossibilité, ne sont-ils pas enveloppés de la miséricorde de Marie? C'était la grande intuition de Marthe. Je ne sais pas ce que l'Église va en dire. Si Marthe sera canonisée, ce que je crois. Parce que je crois que c'est vraiment une petite sainte. Mais c'était sa grande intuition. C'était très beau comme intuition. De voir la maternité de Marie s'étendre aux plus petits, aux plus pauvres. Il y a encore des questions un peu longues ici. Je vais simplement répond du reste à cela. Nous avons perdu 3 enfants en fausse couche avant que Dieu nous donne et nous confie nos jumeaux. Nous sommes comblés, mais où se trouvent ces 3 petits? Eh bien, auprès de la très sainte Vierge. In sinu Mariae, dans la miséricorde du cœur de Marie. Vous verrez, j'en suis sûr. faire une totale confiance à Dieu et à Marie. Alors, je vais continuer. L'éveil de la foi, l'amour, la présence, les gestes du Christ, les paroles de Jésus. Je mettrai cette progression. Et tout ça conduit à l'Eucharistie. Et je dirais que la préparation familiale, je ne dis pas s'achève à l'Eucharistie, mais le premier moment de l'éveil de la foi s'achève à la première communion. Après, je dirais, c'est le second éveil de la foi, qui est peut-être plus difficile que le premier. C'est de l'Eucharistie à la vie où chacun prend conscience qu'il a une vocation personnelle. Mais je crois très important de comprendre que l'éveil de la foi doit conduire à l'Eucharistie. Et que c'est les parents qui préparent à l'Eucharistie. Les parents ou les parrains, ou ceux qui remplacent les parrains et les parents. Mais c'est dans le prolongement de l'éveil de la foi dans la famille. Vous voyez, si Saint Pidis a voulu que les enfants puissent communier très jeunes, très tôt, à l'âge de raison, et l'âge de raison, au point de vue catholique, ça peut être très tôt, 6 ans, 7 ans, et même quelquefois 5 ans. C'est les parents qui doivent savoir ça. C'est pas le curé, il vit pas avec l'enfant. Alors il faut évidemment en parler à monsieur le curé. C'est sûr. Normalement. Et c'est une fête de famille. Et ça c'est très important, comme le baptême du reste. Le baptême c'est une fête de famille. Parce que l'enfant appartient aux parents avant d'appartenir à une paroisse. Et le petit bout de chou, il ne fait pas partie d'une paroisse, quoi. Il fait partie de la famille. Et la famille fait partie de la paroisse. Et c'est important de comprendre ça. Il faut respecter les liens divers. Et la famille appartient à la paroisse, mais la famille a une certaine autonomie. Puisque le concile a dit que la famille, c'était une église domestique. Ce que j'aime beaucoup comme expression. La famille, c'est une petite église domestique. Et je crois que c'est très important de comprendre ça. Que la famille doit être le lieu de cette première éducation, de cette première formation. Eh bien, ce temps de la première formation s'achève avec la première communion. Alors, il faut la mère, le père, faire comprendre à l'enfant ce qu'est la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et ceci, très vite. J'aime beaucoup, j'avoue, des mamans qui, en s'avançant à la table sainte, ont un enfant sur les bras. Je trouve ça très beau. Même si l'enfant ne fait aucune attention, il tourne le dos, sans aucune espèce d'importance. Il faut croire que le Saint-Esprit, en se donnant à la mère, permet à l'enfant d'être plus proche. Puisque c'est le cœur de la mère qui vient le tabernacle pour l'enfant. Et ça, c'est très beau. Et l'enfant fait le geste, vous voyez, de Saint Jean à la première scène. Il repose sur le cœur de Jésus. Et c'est vrai. L'Eucharistie est une chose si étonnante. C'est le trésor de l'Église. Quand je dialoguais avec des psychanalystes freudiens, ils revenaient toujours sur cette question, comment se fait-il que vous appartenez à l'Église ? Cette Église alors, cette c'était la grosse artillerie qui arrivait devant. Cette église avec tous les défauts de l'église, cette église de l'inquisition, cette église qui ne respecte pas la liberté des gens, cette église, comment se fait-il que vous appartenez à l'église? Je leur disais toujours, c'est à cause de l'Eucharistie. C'est tellement grand l'Eucharistie, et l'église et l'Eucharistie remise à l'église. Et c'est vrai. Dieu a voulu que ce soit comme ça, la scène. La première fois que Jésus s'est donné, il a institué le sacerdoce. Il aurait pu faire autrement. Et saint Augustin considère que c'est la plus grande miséricorde de la part de Dieu de faire cette confiance à des hommes. Et saint Augustin considère que c'est le signe le plus net de la divinité de l'Église d'avoir fait que l'Eucharistie soit remise à des hommes, à de pauvres hommes pécheurs qui sont les prêtres. Et c'est vrai, ça. Dieu aurait pu faire autrement. Il aurait pu faire comme dans l'Ancien Testament, la manne. Vous voyez ? Ça n'aurait pas été plus difficile pour Dieu de faire qu'à tel moment, la communauté chrétienne se rassemble, elle prie, et puis tombe du ciel la manne contenant le corps du Christ. Dieu a voulu que ce soit autrement, pour montrer sa confiance aux hommes, en instituant des prêtres qui consacrent, c'est de montrer la confiance qu'il a pour les hommes. C'est du reste bouleversant pour le prêtre. C'est bouleversant pour le jeune prêtre, et c'est encore plus bouleversant pour le vieux prêtre, de voir ce que fait Dieu. Le prêtre avec toutes ses fautes, avec toutes ses maladresses, avec toutes ses limites, avec ses manques d'intelligence, peu importe, quand il prononce ces paroles de l'Eucharistie, ce n'est plus lui. C'est Jésus à travers lui. Et Jésus pousse sa délicatesse qu'il emprunte la voix du prêtre. Parce que Jésus aurait pu... faire que le prêtre soit uniquement un instrument et qu'à ce moment-là, on entende la voix de Jésus. Il aurait monté au prêtre, hein, tais-toi, hein, c'est moi qui parle. Il ne fait pas ça. Ça, c'est bouleversant. Le prêtre agit in persona Christi. C'est l'expression consacrée du Concile de Trente. C'est intraduisible. Il agit dans la personne du Christ. C'est pour ça que Catherine de Sienne dit, on verrait au moment de la consécration le prêtre consacrant, on verrait le Christ. Ce serait le Christ. Le Christ est plus présent que le prêtre au moment de la consécration. Plus réellement présent, mais d'une manière cachée. Parce que le prêtre, il agit en instrument de Dieu. Et uniquement en instrument de Dieu. C'est Jésus qui, à travers lui, et par lui, et en lui, personnellement agit et se donne. Je crois qu'il faut faire comprendre à l'enfant très vite la grandeur du sacrement de l'Eucharistie. Et c'est pour ça que c'est bon, je dis bien c'est bon, que les enfants très vite puissent comprendre. Comprendre, ils comprennent rien du tout au début, hein, ce qu'est l'Eucharistie. Faut s'habituer à entrer dans une église quand elle est ouverte. Entrer dans une église, et si elle est fermée, il faut aller demander la clé. Et si 100 personnes font ça, ça agacera les gens, on les rouvrira. C'est vrai, ça, c'est très vrai, si 100 personnes font ça par jour, on est docile comme des... Alors qu'on devrait dire, mais non, c'est pas normal. C'est pas normal que les églises soient fermées. Dieu s'est donné à nous dans l'Eucharistie. Alors qu'on mette des coffres-forts, je veux bien, pour qu'on ne vole pas le Saint-Sacrement. Et que tous les objets qui sont précieux, qui valent cher, qu'on les mette dans la sacristie, dans des grands coffres. très bien. J'aime mieux une église nue, mais en laquelle on peut entrer régulièrement. Une étable. C'est peut-être ça que le Saint-Esprit veut. Qu'on rentre dans des lieux qui soient très très pauvres. Et qu'on trouve Jésus. Et qu'on trouve là. L'église n'a pas besoin d'être riche. Elles ont besoin de contenir l'Eucharistie. Il y avait des siècles où ça pouvait l'être. Mais si on vit un siècle de briandage, et c'est vrai, on vit un siècle de briandage, si on vit un siècle de briandage, nous devons nous adapter à ça. Mais ne pas perdre le fruit de la présence de l'Eucharistie. Parce que le fruit de la présence de l'Eucharistie, c'est plus cher que tout. Ou bien alors qu'on permette aux chrétiens d'avoir l'Eucharistie chez eux. L'un ou l'autre. Ça, il faut être farouche là-dessus. Parce que c'est un droit du chrétien. C'est un droit du chrétien d'avoir la présence de l'Eucharistie. Et quand on passe devant une église, si on a son petit avec soi qu'on y entre, et que pendant quelques minutes on prie devant le tabernacle, avec lui, et qu'on lui fasse comprendre la présence de Jésus. Et quand on va à la messe, qu'on n'hésite pas de prendre les enfants, les tout-petits avec soi. Et qu'on essaie. Un enfant ne gêne jamais le prêtre. Jamais. Si un enfant gêne le prêtre, un tout petit, vous voyez, quand ils ont 10 ans, c'est différent. Ils peuvent à ce moment-là, mais un enfant, un petit, il ne gêne jamais. C'est impossible qu'il gêne. Et si le curé fait une observation, et monsieur le curé, le Seigneur a dit que les enfants devaient s'approcher de lui. C'est tout. Et c'est vieux, monsieur le curé, c'est vieux. Les apôtres les écartaient déjà. Alors il faut comprendre. Les enfants ont une place privilégiée avec leurs parents, avec leur mère, avec leur père. Je crois ça très important que les petits, très vite, s'habituent au chemin de l'Église et que leur premier contact avec le prêtre, ce soit quand le prêtre donne l'Eucharistie à leur mère. C'est le premier contact. Autrement, le premier contact, ce sera quand le père, quand le prêtre viendra prendre un repas à la famille, où il y aura une discussion terrible au plan liturgique entre les parents et le curé. Alors j'aime mieux que le premier contact, ce soit silencieux, à travers le don que Jésus fait de son propre corps. Et ça suscitera des questions à ce moment-là. Et la mère pourra répondre, et le père pourra répondre. Je crois ça très important. Parce qu'on sait que les premières images demeurent inscrites. Et voyez ici, le premier contact qu'on a avec le prêtre, c'est de voir le prêtre dans un habit, qu'on ne sait pas très bien lequel, vient à la maison, que les discussions sont des discussions banales. Quand l'enfant grandit, voyez l'image du curé qu'il a, l'image du prêtre qu'il a. Il faut être attentif à ça. Parce que quelquefois, c'est suffisant pour arrêter une vocation chez un enfant. Il faut comprendre que le prêtre est un homme consacré à Dieu. Un homme donné à Dieu. C'est pour ça que le pape veut qu'il ait un signe. Et c'est pour ça que le pape veut que les religieux portent l'habit. Ça m'arrive, moi. Quand je prends le TGV, on me dit, alors, vous appartenez à Monseigneur Lefebvre? Je dis, non, je suis lié au pape. Voyez, là, l'idée tout de suite. S'il y a un religieux en habit, ah, c'est Monseigneur Lefebvre. Mais non, pas du tout, quoi. On est dans l'église. Et je leur dis, à cette occasion, le pape demande qu'on porte l'habit. Ah, mais oui, le pape le demande. J'avais fait comprendre ça une fois à un artiste, alors. C'était une jeune artiste qui Alors après, quand elle a rencontré un curé, elle dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous portez pas la bille? Un artiste a le sens du costume. Il sait bien ce que c'est. Et dès qu'on a le sens du costume, on comprend que c'est nécessaire la présence de l'Église dans la communauté. Et il y a une absence de l'Église dans la communauté, du fait même qu'il n'y a plus des témoins visibles. Je comprends que dans certaines situations, ils se mettent en laïcs. Je comprends très bien, dans certaines situations. Mais pas tout le temps. Ça ne devienne pas comme une... Alors vous voyez, uniquement la messe, et on oublie qu'on est consacré spécialement à Dieu. On n'est pas consacré seulement pour le temps, on est consacré pour la vie. Vous savez bien, il y a eu toutes les hypothèses possibles. Pourquoi pas être consacré pour 10 ans? Prêtre pour 10 ans, et puis après on se marie. Non, non, non. Si ça ne marche pas, vous comprenez, et on espère se rattraper après. Mais ce n'est pas ça. Le sacerdoce du Christ est un sacerdoce d'amour. Ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas un sacerdoce fonctionnel. C'est un sacerdoce d'amour. C'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. Alors il faut très vite faire comprendre ça à l'enfant. Le mystère de l'Eucharistie, le mystère du prêtre. Alors le mystère de l'Eucharistie, donc, quand il est tout petit, l'habituer à comprendre cette présence cachée, mystérieuse, silencieuse, que Jésus est là. Et quand il grandit, lui faire comprendre le mystère de la scène, le mystère du testament du Christ, le dernier repas, qui est l'achèvement de la Pâque, alors faire comprendre ce que c'est que la Pâque ancienne, et la nouvelle Pâque, dans le corps et le sang du Christ. Et que c'est à travers ce don de son corps et de son sang que Jésus nous sauve et que Jésus nous montre son amour. C'est sa manière pour lui de nous montrer son amour, testament d'amour. Et dans ce testament d'amour, Jésus se donne dans le silence et sous le mode de l'aliment, du pain et du vin. Faire comprendre ça à l'enfant, il peut comprendre bien plus que lorsque l'enfant a 17 ans ou 18 ans où il commence à raisonner et puis où il a reçu des quantités de choses qui étaient des éclaboussures et auxquelles on... Il n'a pas vu exactement où était la vérité. Tandis que quand il est encore jeune, il comprend la valeur du don. Les enfants comprennent ça très bien. Et le symbole, se donner sous la forme du pain, c'est se donner de cette manière la plus forte qui soit. Puisque le pain, on le mange. Et le manger... C'est faire qu'il nous appartienne, qu'il est à nous. Et en le mangeant et en l'assimilant, il devient notre propre vie. C'est-à-dire qu'il devient notre sang, qu'il devient nos os, et qu'il répare nos forces. Et quand il s'agit de l'Eucharistie, puisque c'est le pain véritable et que ce pain véritable, c'est en réalité le corps du Christ et le sang de Jésus, c'est Jésus qui nous transforme en lui. Ce n'est pas nous qui transformons le Christ en nous, mais c'est Jésus qui nous transforme en lui. C'est-à-dire c'est Jésus qui se donne de cette manière pour que notre cœur d'homme, de petit enfant, soit changé dans son cœur. Le grand mystère de la transsubstantiation, c'est justement c'est ce changement de notre cœur dans le cœur du Christ. C'est ça qui est admirable. C'est là où on comprend ce que c'est que l'amour de Jésus. Il se donne jusqu'au bout pour réaliser l'unité. Quand on s'aime beaucoup, on veut réaliser l'unité. Et unité substantielle. Unité dans le don total de l'âme et du corps. Un don substantiel pour que cette unité se réalise. C'est ça qui est inscrit à l'intérieur de tout amour. Et comme c'est inscrit à l'intérieur de tout amour, Jésus, lui, prend ce langage merveilleux, ce langage divin. Il a inventé ça. Dieu, dans sa sagesse, a inventé l'Eucharistie. On ne peut pas aller plus loin. Réalisez bien, on ne peut pas aller plus loin. Dans l'ordre du service, le lavement des pieds et se donner comme pain. Au plan philosophique, vous ne pouvez pas aller plus loin dans l'ordre du service. Le serviteur, l'esclave, il lavait les pieds. C'était pas le maître qui lavait les pieds. Non. C'était l'esclave qui lavait les pieds. Le maître recevait à sa table. Mais l'esclave lavait les pieds. Et Jésus a fait le geste de l'esclave face à Judas qu'il trahissait. Ça, c'est quand même quelque chose. Hein. Sachant que Judas le trahissait le jour même, Jésus fait le geste de l'esclave. Il s'humilie devant lui. Alors que c'est Judas qui devrait s'humilier devant lui. Et Jésus s'humilie devant lui pour que Judas s'humilie et demande pardon. Et puis le second geste, qui va encore plus loin, c'est le service du pain, le service de l'aliment. Le service de l'aliment, c'est se donner sans réserve, sans rien garder pour soi. C'est un service substantiel, l'aliment. Hein. C'est extraordinaire. Réfléchissez sur ce que représente le don inconscient, c'est évident, du petit pain le matin. Chaque jour, quand on se nourrit. C'est extraordinaire, se faire pain et se faire vain, les apparences. Il se cache derrière les apparences pour se donner comme pain et comme vin. Le réalisme extraordinaire de l'amour divin. Le pain, c'est la nourriture indispensable. Un pauvre, vous ne pouvez pas lui refuser du pain. Vous pouvez lui refuser du vin. Je me souviens, mes pauvres de Fribourg, j'en avais comme ça toute une quantité, parce qu'ils savaient bien que j'essayais de les aider. Alors j'avais les pauvres types qui venaient, qui sentaient le vin, l'alcool. Alors quand je leur donnais du pain, ils n'étaient pas contents du tout. Ils demandaient 2 francs. 2 francs suisses, hein, 2 francs. Je savais ce que ça représentait. Et ils sentaient déjà l'alcool à 10h du matin. Alors, je dis, mais je vais te donner ça, ça se fera mauvais. Alors un m'a répondu, c'est ma seule joie. Alors là, j'ai hésité. Est-ce qu'on va lui enlever sa seule joie? C'est terrible, ça. Incapable qu'on est de lui faire comprendre qu'il y a autre chose. Lui, c'était ça. Le petit valaisan du matin, le petit vin du valet. C'est ça qu'il faisait pour lui. Ça lui permettait de sourire pendant un petit moment. Hein. Puis après de retomber, frapper à la porte d'un autre curé, en demandant 2 francs pour recommencer. Alors, le vin, Jésus qui se donne sous la forme du vin, ça fait rugir ceux qui sont dans la ligue anti-alcoolique. Je me souviens, à Fribourg, c'était régulièrement ça. C'est quand même, il a une idée invraisemblable, se donner comme vin. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans l'Écriture que le vin réjouit le cœur de l'homme. C'est dit dans l'Écriture, ça. Parole du Saint-Esprit. Saint-Esprit, vous dites ces vérités. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Et Jésus a voulu se donner sous la forme du vin pour montrer qu'il était la joie du cœur de l'homme. Je crois que c'est les deux extrêmes, voyez. C'est assez étonnant, ça, comme symbolise. Les deux extrêmes. Le pain, la nourriture indispensable. Le vin, un peu de luxe. Dans les pays de vin, c'est un luxe normal. Dans les pays qui n'y a pas de vin, c'est du luxe. Ça se prend même en dehors des repas. Regardez en Hollande, hein, ça se prend en dehors des repas, le vin. C'est sacré. La bière, le repas et le vin. C'est du luxe. C'est vrai. C'est pour nous faire comprendre que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus nécessaire. Et c'est toujours une surabondance. C'est un langage étonnant. Qu'il se donne comme pain et comme vin. C'est la foi, ce qu'il y a de plus nécessaire, et la surabondance. L'amour, c'est toujours la surabondance. C'est toujours la gratuité surabondante. C'est toujours au-delà de ce qui est le droit. La justice. Quand vous ramenez l'amour à la justice, ça ne va plus. Tandis que le pain, c'est nécessaire. C'est le nécessaire. On ne peut pas vivre sans amour. Il faut faire comprendre ça à l'enfant. Ce qu'est le cœur de Jésus, qui se donne à nous à travers le pain et à travers le vin, pour nous faire comprendre dans un langage silencieux, parce que l'amour se donne toujours dans un langage silencieux. Se donner dans un langage silencieux. Un langage d'amour, de pain et de vin. Je crois qu'un enfant peut comprendre cela d'une façon étonnante. Vous voyez, Jésus n'a pas voulu se donner à travers le lait. C'était un marchand de lait qui me disait quand même, il aurait mieux fait. Se donner à travers le lait. Eh bien non. C'est très curieux ça. Pourquoi ? Et vous comprenez pourquoi ? Parce que il a voulu se donner à travers quelque chose de naturel transformé par l'homme. Où il y a le travail de l'homme. L'Eucharistie, j'allais dire, sacralise le travail de l'homme. Donne au travail de l'homme une dimension nouvelle. Que de fait, le fruit du travail de l'homme, le pain et le vin, Dieu s'en sert, Jésus s'en sert pour se donner pleinement et totalement. Tandis que le lait n'aurait pas exprimé ça, du tout. Je sais très bien que le lait peut être purifié, le lait peut être pasteurisé, comme on dit aujourd'hui. Très bien, mais ce n'est pas une transformation du lait. Tandis que le vin et le pain sont des travaux qui impliquent un art. Tout le monde ne sait pas faire du bon pain. Et tout le monde ne sait pas faire du bon vin. Et qu'il y a quelque chose de qualitatif dans le pain et le vin. Et c'est pour ça qu'on souffre toujours quand on voit que le pain n'est plus ce qu'il devrait être. Et dans certains lieux, le pain n'est plus du tout ce qu'il est, ce qu'il devrait être. Et on soupire après des monastères qui commencent à refaire leur pain. Au moins, on aurait du bon pain. Et là, on voudrait vivre autour de ce monastère pour avoir du bon pain et du vrai pain qui nourrit. C'est vrai, c'est vrai, c'est du gâteau quand on est habitué à du pain qui n'est plus du pain. Et le vin encore plus, hein. Le vrai vin, le vin pur. Et vous voyez, on consacre toujours avec du vin pur. On ne veut pas du vin qui soit passé par du point de vue chimique. Non, pour exprimer quelque chose. C'est pour montrer que c'est le labeur de l'homme qui coopère avec la nature. Et que donc, que l'amour du Christ se donne à nous, mais réclame notre travail. Réclame notre coopération. Jésus se donne gratuitement, mais il veut notre coopération. Il la veut, celle-là. Et que si on reçoit trop gratuitement, on devient des enfants gâtés. Faire comprendre ça à un gosse, que son travail lui permet de mieux communier, que ses actes d'obéissance lui permettent de mieux communier, que ses petits gestes d'adoration lui permettent de mieux communier, c'est énorme pour toute sa vie. Parce qu'il comprendra que son travail est inscrit dans le testament du Christ. Et le travail, notre labeur, de tout petit ou de grand, est inscrit dans le testament du Christ. Alors ça, c'est grand. C'est très grand.